24 heures après être sorti de l'hôtel de la Ville Audry, blême et se tenant au mur, Daniel n'était pas bien remis de l'étourdissement de ce dernier désastre. Il s'était fait un ennemi mortel de l'homme qu'il avait le plus d'intérêt à ménager au monde, et cet homme qui, sous la pression d'une influence étrangère, ne lui congédiait qu'à regret, l'avait de son propre mouvement chassé. Comment cela était arrivé, c'est à peine s'il parvenait à s'en rendre compte. Aussi bien, repassant toute sa conduite depuis quelques jours, il la trouvait pitoyable, absurde. Sans compter que tous les événements s'étaient tournés contre lui. Et il accusait la fatalité, l'aveugle déesse à qui s'en prennent ceux qui n'ont pas le courage de s'en prendre à eux-mêmes. C'est en cette disposition d'esprit que vint le surprendre une lettre de Mademoiselle Henriette. Ainsi, c'était elle qui le devançait, et sûre de son désespoir, elle avait cette délicatesse toute féminine de lui écrire presque gaiement. « Aussitôt après votre départ, mon cher Daniel, disait-elle, mon père m'a commandé de monter dans mon appartement, et il a décrété que j'y resterai tant que je ne serai pas devenue raisonnable. Je sens que j'y resterai longtemps. » Et elle terminait ainsi. « Ce qu'il nous faut, ô mon unique ami, c'est du courage. En aurez-vous autant que votre Henriette ?»« Oh oui, j'en aurai !» s'écria Daniel, ému jusqu'aux larmes. « J'en aurai !» Et il s'était juré de se jeter si furieusement dans le travail qu'il y trouverait non pas l'oubli, mais le calme. Ce n'était pas de jurer qui était difficile. Tels efforts qu'il fit, il ne pouvait fixer sa pensée à rien d'étranger à son malheur actuel. Les études qu'il avait le plus charmées jadis ne lui aspiraient que dégoût. L'équilibre de sa vie était si entièrement rompu qu'il ne parvenait pas à le ressaisir. L'existence qu'il menait était d'ailleurs celle d'un homme désemparé. Sitôt levé, il courait prendre M. de Brévent et le garder tant qu'il pouvait. Resté seul, il errait au hasard le long des boulevards ou des Champs-Élysées. Il dînait de bonne heure, se hâtait de rentrer, et revêtant un vieux caban de grosse étoffe qu'il portait à bord autrefois quand il était de quart, il allait rôder autour de l'hôtel de la Ville Audry. Là, derrière cette lourde porte sculptée, ouverte aux plus indifférents, fermée pour lui, était la femme qu'il aimait plus que la vie. S'il eût fait sonner fortement le talon de ses bottes contre les dalles du trottoir, elle eût entendu le bruit de ses pas. Il entendait, lui, les accords de son piano, et cependant la volonté d'un homme creusait entre eux un abîme. Ce qui le tuait, c'était l'inaction. Il lui paraissait atroce, humiliant, intolérable d'en être réduit à tout attendre, bonheur ou malheur, de la destinée, passivement, sans tenter un effort, tel qu'un homme qui, désirant passionnément la fortune, se contenterait de prendre un numéro à la loterie, et les bras croisés attendrait le tirage. Il y avait 6 jours déjà que durait le supplice, dont il n'entrevoyait pas la fin, quand, un matin, au moment où il se disposait à sortir, on sonna chez lui. Il alla ouvrir. C'était une femme qui, sans maudire, entra vivement et non moins vivement, referma la porte sur elle. Encore qu'elle fût affublée d'un grand manteau qui dissimulait sa taille, et qu'elle eût sur le visage un voile fort épais, Daniel la reconnut. « Miss Brandon !» s'écria-t-il. Déjà, elle avait relevé son voile. « Oui, moi !» répondit-elle, « au risque d'une calomnie nouvelle à ajouter à toutes celles dont on a tenté de me flétrir, monsieur Daniel. » Stupéfié d'une démarche qui lui semblait le comble de l'impudence, il restait là, debout dans l'antichambre, ne songeant point à offrir à Miss Sarah de passer dans la pièce voisine, son cabinet de travail. Elle y passa bravement, toute seule, et quand il y eut suivi, « Je suis venue, monsieur, commença-t-elle, vous demander ce que vous avez fait de cette parole que vous m'aviez donnée chez moi l'autre soir. » Elle attendit un moment, et comme il ne répondait pas, « Allons, fit-elle, je vois que vous êtes comme tous les hommes. Engagent-ils leur parole à un autre homme, leur égal en force, et mettent leur honneur à la tenir. » Est-ce une femme, au contraire, ils la trahissent et s'en font gloire. Le mouvement de colère de Daniel, elle ne voulut pas le voir, et plus froidement. « Moi, j'ai plus de mémoire que vous, monsieur, et je vais vous le prouver. Ce qui s'est passé chez monsieur de la Ville Audry, je le sais, il me l'a dit. Vous vous êtes laissé emporter jusqu'à le menacer, jusqu'à lever la main sur lui. Il allait frapper sa fille, j'ai arrêté son bras. Non, monsieur, non, mon cher comte est incapable de telle violence, et cependant sa fille venait de lui reprocher de s'être laissé entraîner par moi à fonder une compagnie industrielle. » Daniel garda le silence. « Et vous, poursuivit Miss Sarah, vous avez laissé Mademoiselle Henriette dire cette chose offensante et absurde. Moi, pousser le comte à une entreprise où il pourrait perdre de l'argent? Pourquoi? Quel intérêt y aurais-je? » Sa voix se troublait, ses beaux yeux se voilaient. « L'intérêt, poursuivit-elle, l'argent. Le monde ne croit plus qu'à ce mobile, de l'argent. Et j'en ai. Si j'épouse le comte, vous savez mes raisons, vous. Et vous savez aussi qu'il me l'a tenu. qu'il ne tient peut-être encore qu'à un homme de me faire rompre ce mariage, aujourd'hui même, à l'instant. » Elle l'enveloppait en disant cela d'un regard qui lui fait tressaillir une statue sur son socle de marbre. Mais lui, le cœur gros de haine, demeura de glace, heureux de cette revanche qui s'offrait. « Je croirai à tout ce que vous voudrez, miss, » fit-il la tourailleur, « si vous daignez répondre à une seule question. Interrogez, monsieur. L'autre nuit, quand je vous ai quitté, où êtes-vous allé en voiture ?» Il s'attendait à la voir se troubler, pâlir, balbutier. Point. « Quoi, vous savez cela ? » s'écria-t-elle d'un accent de candeur admirable. « Ah, je commettais une imprudence aussi grave presque que celle d'aujourd'hui. Qu'un sot me voit sortir de chez vous. » « Pardon, ce n'est pas répondre, cela, miss. Où alliez-vous » Et comme elle se taisait, surprise par la fermeté de Daniel, « Vous l'avouez donc, » fit-il avec un rire moqueur, « vous croire serait folie. Raison là, et priez Dieu que j'oublie tout le mal que vous me faites. » Des larmes de douleur ou de rage jaillirent des yeux si beaux de Miss Sarah. Elle joignit les mains et d'une voix suppliante, « Je vous en conjure, » insista-t-elle, « monsieur Daniel, accordez-moi seulement 5 minutes, il faut que je vous parle, si vous saviez. » Il ne pouvait la pousser dehors. Il la salua profondément et se retira dans sa chambre, dont il poussa la porte sur lui. Mais il appliqua tout aussitôt son œil à la serrure, et il put voir Miss Sarah, les traits convulsés par la rage, le menacer du poing et se retirer précipitamment. « Elle voulait me tendre un piège, » pensa Daniel. Et l'idée qu'il l'avait évitée lui fit oublier son chagrin une partie de la journée. Mais le lendemain, comme il rentrait chez lui, on lui remit un énorme pli qu'un plandon du ministère de la Marine avait apporté pour lui. 2 lettres s'y trouvaient. La première lui annonçait qu'il était promu au grade de lieutenant de vaisseau. L'autre lui enjoignait de se trouver sous 4 jours à Rochefort pour y prendre le service sous son grade à bord de la frégate La Conquête qui attendait sur Râle l'ordre de transporter en Cochinchine le bataillon d'infanterie de marine. Le grade auquel il était enfin promu, il y avait des années que Daniel le désirait de toutes les forces de sa jeune ambition. Il était, ce grade, comme le but suprême de tous ses rêves au jour de son adolescence, quand il apprenait au bordel les fatigues et les périls de son rude métier. Que de fois, appuyé au bastingage du vieux navire, voyant passer des embarcations qui conduisaient leurs officiers à terre, il s'était dit « Quand je serai lieutenant de vaisseau ?» Eh bien, il l'était. Ses épaulettes tant souhaitées, il ne tenait qu'à lui de les passer aux attentes de son uniforme. Mais hélas, ses désirs réalisés ne lui donnaient que dégoût et amertume, pareil à ces fruits d'or que le lointain balance à des arbres magiques et qui se décomposent sous la main qui les atteint. C'est qu'en même temps que son avis de promotion lui arrivait, menaçant et fatal cet ordre d'embarquement. Comment lui arrivait-il à lui qui avait au ministère un poste où il rendait des services réels, pendant que tant d'autres de ses camarades écœurés de l'oisiveté des ports guettaient avec une impatience fébrile l'occasion de reprendre la mer ? Ah ! S'écria-t-il, le cœur gonflé de rage. « Je reconnais, comment ne reconnaîtrais-je pas, cette infernale trahison, la main de Miss Brandon ?» Déjà, en lui faisant fermer les portes de l'hôtel de la Ville Audry, elle l'avait séparé de Mademoiselle Henriette, et il leur était interdit de se parler et de se voir. Et cela ne lui suffisait pas à cette aventurière maudite. Elle voulait entre eux plus qu'un obstacle moral et de pure convention. Plus que des défenses qu'on peut enfreindre et éluder, elle voulait des barrières infranchissables, l'océan et des milliers de lieues. « Oh non !» s'écria-t-il, « 1000 fois non !» Je briserai ma carrière plutôt. Je donnerai plutôt ma démission. » Et toutes ces réflexions de la soirée ne firent que l'affermir dans cette résolution. C'est pourquoi, dès le lendemain, en se levant, il endossa son uniforme, décidé à s'adresser d'abord à celui de ses chefs que l'affaire regardait, déterminé à aller jusqu'au ministre s'il le fallait. Cet uniforme, il ne l'avait pas mis depuis une grande fête à l'hôtel de Chandoc, où il avait dansé une partie de la nuit avec Mademoiselle Henriette. Il y avait plus d'1 an de cela. C'était quelques semaines avant la mort de la comtesse de la Ville Audry. Comparant à son désespoir actuel ses radieuses illusions de ce temps déjà lointain, l'attendrissement le gagnait, et il avait les yeux brillants de larmes mal essuyées lorsqu'il arriva au ministère de la Marine vers 10 heures du matin. Le chef de service qu'il venait voir était un vieux capitaine de vaisseau, homme excellent qui, à force de s'exercer à paraître bourru, dur et raide, l'était devenu. Voyant entrer Daniel dans son cabinet, il pensa qu'il venait à l'occasion de sa nomination, et arborant pour lui un large sourire, « Eh bien, le lieutenant Chancé, cria-t-il de sa meilleure voix, nous sommes contents !» Et s'apercevant que Daniel ne portait pas les insignes de son nouveau grade, « Ah ça, vous êtes lieutenant, fit-il, ne le savez-vous pas encore ? Pardonnez-moi, mon commandant. Pourquoi diable vos épaulettes retardent-elles alors ? » Et il fronçait le sourcil terriblement, estimant que ce peu d'empressement n'annonçait rien de bon. De son mieux, c'est-à-dire assez mal, Daniel s'excusa, puis abordant nettement l'objet de sa visite. « J'ai reçu, commença-t-il, un ordre d'embarquement. Je sais, sur la conquête en rade de Rochefort pour la Cochinchine. Je dois être à mon poste sous 4 jours. Et vous trouvez le délai un peu bref, c'est vrai, mais impossible de vous accorder 10 minutes de plus. Ce n'est point un délai que je sollicite mon commandant, mais bien la faveur de garder la position que j'occupe ici. » Le vieil officier tressauta sur son fauteuil. « Vous voudriez ne pas embarquer ? » s'écria-t-il, on leur demande un avancement au choix. « Ah ça, devenez-vous fou ?» Tristement, Daniel hocha la tête. « Croyez, mon commandant, répondit-il, que j'obéis aux motifs les plus impérieux. » Renversé sur son fauteuil, les yeux au plafond, le commandant parut les chercher, ces motifs. Puis tout à coup, et coup sur coup, « C'est votre famille qui vous retient ? » interrogea-t-il. « Je n'ai plus de famille. » Mais vous êtes sur le point de vous marier. Hélas, non. Votre fortune est compromise, peut-être. Non, mon commandant. Alors que diable me chantez-vous ? S'écria le vieil officier avec vos graves raisons. Et de son ton le plus bourru, qui ne l'était pas médiocrement. C'est-à-dire, poursuivit-il, que vous trouvez l'existence plus douce ici qu'à bord ? Je conçois cela. On arrive au ministère à 11 heures, dans un bureau bien chauffé, s'il fait froid. S'il y a de la besogne, on en prend à son aise. Et à 5 heures, on est libre. Le soir, on a la flânerie sur le boulevard, le café, les amis et le théâtre. Ce qui est beaucoup plus gai que le bond d'un bateau par un gros temps. Enfin, pour comble, nous cachons quelque part une charmante amie qui nous aime bien et qui, dame, à la seule idée de notre départ, pleure comme une madeleine. Mon commandant, taisez-vous. C'est votre histoire à vous tous, messieurs les jeunes officiers. Dès que vous êtes restés à Paris 6 mois, on ne peut plus vous en tirer. Sacrebleu, quand on est maintenant à vivre en bourgeois, qu'on change de métier. En attendant, vous êtes marin. Vous avez ordre d'embarquement, embarquez. Il ne vous reste plus que 3 jours pour les préparatifs et les adieux. C'était un congé, mais le parti de Daniel était pris. Pardonnez mon insistance, mon commandant, reprit-il. Si véritablement je ne puis être remplacé par un de mes camarades, je vais être forcé de donner ma démission. Le vieux marin bondit sur ce mot et roulant des yeux terribles. Je disais bien que vous étiez fou, s'écria-t-il. Très résolu, Daniel était néanmoins trop troublé pour n'être pas maladroit. « Il s'agit de ma vie même, mon commandant, » insista-t-il. « Et si vous connaissiez mes raisons, si je pouvais vous les dire ?»« Des raisons qu'on ne peut pas dire sont certainement mauvaises, monsieur. Je maintiens ce que je vous ai dit. »« Alors moi, mon commandant, je me vois forcé, à mon mortel regret, de maintenir l'offre de ma démission. » De plus en plus, le front du vieil officier se plissait. « Votre démission, gronda-t-il, votre démission, vous en parlez bien lestement. Reste à savoir, cependant, si on l'acceptera. » La conquête ne sort pas pour tirer quelques bordées au large. Elle part pour une campagne sérieuse et qui durera longtemps. Nous avons eu des démêlés fâcheux là-bas. Nous y portons du renfort. Il faudra peut-être en découdre. Vous êtes encore en France, mais vous êtes commandé pour marcher à l'ennemi. Il n'y a pas de démission en face de l'ennemi, lieutenant Chancé. Daniel était devenu fort pâle. Vous êtes dur, mon commandant, fit-il. Je n'ai, sacrebleu, pas l'intention d'être doux, et si cela peut vous faire changer d'avis... Je n'en puis changer, malheureusement. Brusquement, le vieux marin se leva, et après 3 ou 4 tours dans son cabinet, pendant lesquels sa colère s'exhala en jurons de toutes sortes, revenant à Daniel. « S'il en est ainsi, lieutenant, prononça-t-il du ton le plus sec, le cas est trop grave pour que je ne le soumette pas à monsieur le ministre. Quelle heure est-il ? 11 heures ? Revenez à 12h30, j'aurai vu son excellence. » Bien sûr que son chef ne parlerait point en sa faveur, Daniel se retirait. Attends le pas à travers le dédale des corridors quand une voix joyeuse l'appela. « Chancé !» Il se retourna et se trouva en face de 2 camarades de promotion, de ceux avec qui elle avait été le plus liée au mandat. « Te voici donc notre supérieur !» lui dirent-ils gaiement. Et de l'accent le plus sincère, ils se mirent à le féliciter, ravis, affirmait-il, de voir le choix tomber sur un garçon tel que lui, ainsi que tout le monde le reconnaissait, d'un mérite indiscutable et qui faisait honneur au métier. Un ennemi de Daniel ne lui pas mis si cruellement au supplice que ses 2 excellents camarades. Il n'était pas une de leurs félicitations qui ne l'a porté d'une sanglante ironie. Tous les mots portés. « Avoue d'ailleurs, poursuivait-il, que tu as de la chance comme parrain. Tu es lieutenant d'hier, tu embarques demain. Tu seras capitaine de frégate quand nous nous reverrons. »« Je ne partirai pas, » interrompit Daniel d'un ton farouche. « Je donne, j'ai donné ma démission. » Et plantant là ses 2 amis stupéfaits, il s'éloigna presque courant. En vérité, il n'avait pas prévu toutes ces difficultés, et la colère l'aveuglant, il accusait le commandant d'injustice et de tyrannie. « Il faut que je reste à Paris, disait-il, et je resterai. » Et loin de le calmer, la réflexion l'exaltait. Sorti de chez lui avec l'intention de n'offrir sa démission qu'à la dernière extrémité, Il était résolu désormais à la maintenir obstinément, alors même qu'on lui donnerait pleine satisfaction. N'avait-il pas de quoi vivre? Et ne trouverait-il pas toujours une occupation honorable? Cela vaudrait un peu mieux que persister dans une carrière où jamais on ne s'appartient, où éternellement on vit sous le coup d'un ordre soudain vous enjoignant de partir sur l'heure pour n'importe quel point du globe. Voilà ce qu'il se disait tout en déjeunant dans une taverne de la rue de la Madeleine, et lorsqu'il revint au ministère un peu après midi, il se considérait comme n'appartenant plus à la marine, et se souciant infiniment peu, croyait-il, de la décision du ministre. C'était alors l'heure des audiences, l'heure où chacun vient suivre aux différentes divisions les affaires qui l'intéressent, et la salle d'attente était pleine d'officiers de tous les grades, quelques-uns en uniforme, beaucoup en bourgeois. La conversation devait être assez animée, car du corridor, Daniel en entendit les éclats. Il entra. Le silence se fit, subit, profond, glacial. Évidemment, on parlait de lui. On eût dû douter que les physionomies réservées, les sourires contraints, les regards dont on l'examinait à la dérobée eussent levé ses doutes. « Qu'est-ce que cela veut dire ? » pensa-t-il inquiet. Cependant, un jeune homme en bourgeois qu'il ne connaissait pas venait l'interpeller d'un côté de la salle à l'autre, un vieil officier à l'uniforme délabré, aux épaulettes noircies, un vrai loup de mer, maigre, tanné, ridé au teint jaune, et dont les yeux gardaient encore les traces d'une violente ophtalmie. « Pourquoi vous arrêtez-vous, lieutenant ? » dit-il. « Vous nous intéressiez, je vous l'assure, prodigieusement. » Le lieutenant parut hésiter, puis, comme s'il eût pris son parti d'une chose désagréable mais indépendante de sa volonté. Donc, reprit-il, nous arrivons là-bas persuadés que nous avions pris toutes les précautions imaginables et que nous n'avions, autant dire, rien à craindre. Belle précaution, ma foi. Au bout de 8 jours, la moitié de l'équipage était sur le flanc, et de tout l'état-major, il n'y avait plus que le petit Berthaud et moi en état de monter sur le pont. Encore moi, j'avais les yeux dans un état. Vous voyez ce qu'il m'en reste. C'est le commandant qui est mort le premier. Le soir même, 5 matelots le suivaient et 7 le lendemain. Le surlendemain, c'était le premier lieutenant et 2 officiers d'administration. Jamais on n'a rien vu de pareil. Daniel s'était penché vers son voisin. « Qui donc est cet officier ? » demanda-t-il. « Le lieutenant du TAC de la Valeureuse qui revient de Cochinchine. » Le jour, un jour sinistre, se fit dans l'esprit de Daniel. « Quand est rentrée la Valeureuse ? » interrogea-t-il. Il y a 6 jours à Brest. L'autre, cependant, poursuivait. Et voici comment nous avons laissé là-bas un bon tiers de notre effectif. Quelle campagne! Pour ce qui est de mon opinion, la voilà. Fichu pays, climat déplorable, habitants bons à pendre. Décidément, insista le jeune homme bourgeois, il ne fait pas bon en Cochinchine. Ah, mais non! De sorte que si on vous y renvoyait, j'y retournerai naturellement. Il faut bien que quelqu'un aille y conduire des renforts. Mais j'aime autant que ce soit un autre que moi. » Il haussa les épaules et philosophiquement, et encore, ajouta-t-il, « puisque le métier veut qu'on soit mangé par les poissons, que ce soit ici ou là, je n'y vois pas grande différence. » N'était-ce pas là pour Daniel, sous une forme triviale mais terrible, la paraphrase de ce que lui avait dit son chef ?« Il n'y a pas de démission en face de l'ennemi. » Il était clair que tous les officiers rassemblés là doutaient de son courage et le disaient lorsqu'il était entré. Il était manifeste qu'on attribuait sa démission à la peur. À cette pensée que pouvait le prendre pour un lâche, Daniel frémit. Que faire pour prouver qu'il n'était pas un lâche? Provoquer tous les officiers rassemblés là, se battre en duel 1 fois, 2 fois, 10 fois? Cela prouverait-il qu'il n'avait pas reculé devant les périls inconnus de contrées toutes nouvelles, la débarquement armée et la climat dévorant? Non, sous peine de garder toute sa vie une flétrissure, il fallait partir, oui. Partir, puisque là-bas était le danger dont il avait peur, croyait-on. Il s'avança donc vers le vieux lieutenant, et d'une voix forte pour que tout le monde l'entendît bien. « Mon cher camarade, prononça-t-il, désigné pour aller d'où vous venez, je ferai ma démission. Mais après ce que vous venez de dire et que j'ignorais, je pars. » Il y eut comme un murmure approbateur. Une voix dit « Ah, j'en étais bien sûr !» Et ce fut tout. C'en était assez pour prouver à Daniel qu'il avait pris le seul parti possible. Que son honneur avait failli être compromis et qu'il le sauvait. Mais n'importe, si simple que fût cette scène, elle était encore bien extraordinaire de la part de gens aussi réservés que le sont d'habitude les marins. Et d'ailleurs, n'arrive-t-il pas tous les jours qu'un officier désigné pour un service demande et obtient d'être remplacé sans qu'on y trouve à redire? Au fond de tout cela, Daniel discernait quelques diaboliques perfidies. Si l'ordre d'embarquement avait été obtenu par Miss Brandon, n'avait-elle pas dû prendre ses mesures pour qu'il fût impossible de s'y soustraire? Tous les gens qui se trouvaient là en bourgeois étaient-ils bien des marins? Le jeune homme qui avait prié le lieutenant du TAC de poursuivre avait disparu. Daniel allait de l'un à l'autre, demandant en vain qui était ce garçon à la langue si bien pendue, lorsqu'on vint le prévenir que son chef l'attendait dans son cabinet. Il y courut et dès le seuil. « Je me rends à vos conseils, mon commandant, déclara-t-il. Sous 3 jours, je serai à bord de la conquête. » Le visage sévère du vieux capitaine de vaisseau se dérida. « À la bonne heure, approuva-t-il, et c'est sagesse de votre part, car votre affaire me paraissait prendre une mauvaise tournure. Monsieur le ministre est fort irrité contre vous. » « Monsieur le ministre, pourquoi ? Primo, il vous avait confié un travail urgent. »« C'est vrai, balbutia Daniel en baissant le nez, mais j'ai été si souffrant. » Le fait est que ce malheur au travail, il l'avait absolument oublié. « Secondo, poursuivit le vieil officier, il se demande si vous êtes bien sain d'esprit, et je le comprends depuis qu'il m'a dit que cet embarquement, c'est vous-même qui l'avez sollicité dans les termes les plus pressants. » Daniel était comme hébété. « Son Excellence se trompe, balbutia-t-il. » « Ah, permettez, monsieur Chancé, j'ai vu votre lettre. » Mais déjà tel qu'un éclair, une aspiration soudaine illuminait l'esprit de Daniel. « Oh, si je pouvais la voir, s'écria-t-il, mon commandant, je vous en prie, montrez-moi cette lettre. » Pour le coup, le vieil officier jurait que Daniel n'avait pas son bon sens. « Je ne l'ai pas, répondit-il, mais allez à votre dossier, au bureau du personnel. » La minute d'après, Daniel était au bureau indiqué, et non sans peine, sous certaines conditions, il obtenait la communication de son dossier. Il l'ouvrit d'une main fiévreuse, et la première pièce qui frappa ses yeux, ce fut une lettre, datée de l'avant-veille, où lui, Daniel Chancé, il suppliait le ministre de lui accorder la faveur de faire partie de l'expédition de la frégate La Conquête. Cette lettre, Daniel ne l'avait pas écrite, il n'en était que trop sûr. Mais c'était si bien son écriture trait pour trait, c'était si exactement sa signature qu'il l'eut comme un éblouissement, doutant presque l'espace d'une seconde de lui, de ses yeux, de sa raison. Si merveilleuse était la contrefaçon et si parfaite que s'il se fût agi d'un fait d'une importance médiocre, remontant seulement à une quinzaine de jours, il eût douté de sa mémoire plutôt que de cette épreuve matérielle. Aussi, épouvanté de ce hardi chef-d'œuvre de faussaire, « C'est à n'y pas croire, murmura-t-il. Ce qu'il voyait de certain, de positif, c'est que cette lettre ne pouvait avoir été inspirée que par Miss Brandon. Un de ses complices habituels, l'honorable Sir Thomas Elgin, sans doute l'avait écrite. Ah, maintenant, Daniel s'expliquait, l'impudente assurance de Miss Sarah. Son assistance à lui offrir les lettres du pauvre caissier Malga et à lui répéter « Allez les montrer à ceux qui ont vécu des années près de ce malheureux, et ils vous diront si elles sont bien de lui. » Certes, il ne trouvait personne pour dire le contraire, si l'écriture de Malga avait été imitée avec une aussi désolante perfection que la sienne. Cependant, il y avait peut-être un parti à tirer de cet étrange événement, mais lequel ? Devait-il parler de sa découverte ? À quoi bon ? Le croirait-on lorsqu'il dénoncerait ce faux véritablement inouï de hardiesse et de perfidie ? Consentirait-on à commencer une enquête ? Et si on l'a commencée, à quoi aboutirait-elle ? Ou trouver un expert pour croire, pour affirmer que cette lettre n'avait pas été écrite par lui, alors que lui-même, si on lui eût présenté chaque ligne séparément, il eût cru reconnaître son écriture ? N'était-il pas infiniment probable, au contraire, qu'après ces démarches de la journée, on ne verrait dans toutes ces allégations qu'une fable grossière et ridicule ? Imaginé après coup pour essayer de se soustraire à une expédition qui, après l'avoir séduit d'abord, l'avait effrayé quand il avait connu les dangers. Donc mieux valait mille fois se taire, se résigner et remettre à plus tard sa vengeance, quelque vengeance terrible comme la perfidie et qu'il aurait eu le temps de mûrir. Mais il ne voulait pas que cette fausse lettre, qui pouvait peut-être devenir un témoignage accablant, restât dans son dossier, d'où Miss Sarah, pensait-il, trouverait sans doute moyen de la faire enlever. Il demanda donc la permission d'en prendre une copie, l'obtint, se mit à la besogne, et réussit assez adroitement, pour n'être vu de personne, à substituer sa copie à l'original. Cela fait, n'ayant plus une minute à perdre, il quitta le ministère, et sautant dans une voiture, se fit conduire chez M. de Brévent.